France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Femmes en sabots, les oubliées de l'histoire, qui sont-elles, ces femmes dont la voix a laissé si peu de traces dans les archives parce que femmes, parce que paysannes, à côté de la dame du seigneur et parfois des nonnes enfermées dans leur couvent, il y a toutes ces femmes dont le rôle dans la vie paysanne a longtemps été invisibilisé, dont l'identité même a été effacée. L'enjeu pour l'historienne, pour l'historien est de les retrouver. Qui sont-elles? Que font-elles? Qu'ont-elles à nous dire?
Le matin, je traite les vaches. Après, je soigne les cochons et les hommes soignent les vaches. Alors ensuite, je fais le ménage, la cuisine, jusqu'à midi. Je lave un petit peu l'après-midi et puis je prépare pour les bêtes le soir. Alors je soigne les cochons, puis quand les hommes rentrent du champ, ils soignent les vaches encore.
Le cours de l'histoire.
Pensez-vous que ce soit un travail très dur ou trop dur pour une femme?
Oh, c'est assez dur parce que ça n'arrête jamais.
Nous étions en 1960 avec cette archive. Scarlett Beauvallet, bonjour.
Bonjour.
Quand on entend ce type d'archives et quand nous pensons à la place des femmes dans les sociétés rurales, nous avons l'idée que nous avons une place qui ne bouge pas, qui n'évolue pas tant que cela à travers les siècles et les millénaires. Et là, l'historienne est présente pour nous rappeler que non. Alors déjà, cette place est essentielle et en plus, c'est un monde qui évolue sans cesse, ce monde rural.
Alors non seulement c'est un monde qui évolue sans cesse, mais c'est un monde qui est mal connu quand on s'intéresse aux femmes. Parce qu'il y a eu de très nombreuses thèses d'histoire rurale dans les années 60, mais on a très peu évoqué les femmes. On parlait de vocable générique, le monde paysan, les paysans, bon, sans s'intéresser aux femmes. Et il faut attendre véritablement, je dirais, les années 2000-2020 pour que le genre, la question du genre dans les campagnes soit de nouveau à l'honneur et qu'on s'intéresse aux femmes. Et il faut remercier Didier Lette et pour avoir initié une journée d'études qui a allié les modernistes et les médiévistes pour relancer cette question. Donc je dirais que c'est un sujet neuf.
Voilà, c'est un sujet neuf et qui mérite d'être exploré. Non, mais c'est vrai que Scarlett Beauvallet, cette histoire des femmes, déjà, nous savons combien les femmes ont été invisibilisées, mais si on ajoute à ça des femmes paysannes, là, on peut dire qu'il y a plusieurs couches d'invisibilisation.
Alors que les sources existent. C'est ça qui est intéressant, c'est que les historiens et les historiennes qui sont intéressés aux femmes, je dirais plutôt des historiens, pour dire les choses quand même clairement, ne sont pas allés chercher les femmes, alors qu'on les trouve. Alors que les sources sont nombreuses, diversifiées, mais parce qu'il y a, je dirais, des stéréotypes de genre déjà dans la constitution des sources, on voit peu les femmes. Mais c'est à nous, historiens et historiennes, d'aller les retrouver et de leur redonner leur voix.
Clémence Gaden-Rosfelder, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Vous êtes doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales. En écho à ce que vient de dire Scarlett Beauvallet, oui, il y a les sources. Parce que c'est quelque chose à rappeler sans cesse, il y a de quoi dire.
Oui, absolument. La question des sources pour l'histoire des femmes dans les campagnes, c'est une question qui est très épineuse. Scarlett l'a dit, elles sont doublement invisibilisées parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont de la campagne. Elles appartiennent à un milieu auquel l'histoire s'est peut-être moins intéressée jusqu'à maintenant. Et elles ont été vues par les élites agrariennes au XIXe siècle, modernisatrices au XXe, si on veut dire ça de manière assez schématique. Et de fait, les femmes sont assez difficiles à trouver dans les sources. Alors, les historiens et les historiennes, dont les travaux portent sur l'après-Seconde Guerre mondiale, ont la chance de pouvoir réaliser des entretiens, même si, en fait, réaliser des entretiens, ça présente aussi des difficultés. Mais pour tout ce qui est avant Seconde Guerre mondiale, c'est compliqué. Voilà, il faut, Scarlett l'a dit, il faut vraiment chercher dans les sources d'une nouvelle manière, parce que c'est vrai que par défaut, on a tendance à faire l'histoire masculine, entre parenthèses. Alors que, et donc de chercher les femmes dans les sources, ça demande à une réflexivité sur notre propre métier d'historien et d'historienne, sur notre manière qu'on nous a appris à faire de l'histoire. Et je trouve ça passionnant.
Et ça demande du temps.
Et ça demande beaucoup plus de temps, ouais.
Clémence Gaden-Rosfelder, vous êtes l'autrice avec Anthony Hamon de la vie des femmes dans les campagnes en France au 19e et au 20e siècle. Scarlett Beauvallet, vous êtes spécialiste de la période moderne, 17e, 18e siècle. Mais qu'est-ce qui nous manque? Une médiéviste. Justine Audebrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse post-doctorante à l'Institut historique allemand de Paris avec votre ouvrage La vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire. Donc là, nous sommes au 6e et au 11e siècle. Le problème des sources se pose.
Oui, bien sûr. Et puis l'autre problème qui est spécifique, peut-être, enfin plus spécifique à l'époque médiévale et moderne qu'à l'époque contemporaine, c'est aussi le fait que la très grande majorité des sources médiévales sont produites par l'Église et pour l'Église, et au sein de cette Église, majoritairement par des hommes. Donc on a une espèce de double prisme déformant pour saisir ces femmes, ce qui n'empêche pas qu'on puisse les voir à la fois dans les sources traditionnelles de l'histoire médiévale, par exemple la géographie, la vie des saints et des saintes, avec des anecdotes spécifiques aux campagnes, mais aussi par exemple dans des polyptiques, c'est-à-dire des inventaires des biens des grands monastères, où l'on voit un recensement de toute la population qui vit sur les terres du monastère. À titre d'exemple, dans celui de Saint-Germain-des-Prés dans les années 820, on voit plus de 10 000 personnes, dont évidemment beaucoup de femmes, moins que d'hommes peut-être, mais on peut les trouver. Et on peut bien sûr aussi s'appuyer, et c'est très important pour cette étude, sur les sources archéologiques et sur ce que nous apporte l'archéologie qui est très complémentaire pour ces questions de l'histoire des textes.
Scarlett Bovala, il y a des sources, nous disiez-vous, très bien, et je l'entends, hein, il y a des sources, mais dans ces sources même, les femmes sont parfois dissimulées derrière le nom de leur mari.
Voilà, le problème du nom est le problème le plus important, parce que les femmes n'ont pas la capacité juridique quand elles sont mariées, elles n'ont une capacité juridique entière que quand elles sont veuves, ou célibataire, mais enfin pas complètement. Et donc, en fait, elles disparaissent sous le nom de femme de. Mais, par exemple, quand on prend des contrats de mariage, on apprend souvent que, pour donner un exemple, que la mariée a constitué elle-même sa dot grâce à ses gains et épargne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule de gains et épargne? Ça veut dire qu'elle a travaillé avant son mariage et qu'elle a mis de l'argent de côté, qu'elle a eu un travail salarié. Ça, si vous ne lisez pas le contrat dans son ensemble, vous ne le voyez pas. Deuxième exemple, vous avez par exemple un mari, parce qu'on en parlera sans doute tout à l'heure, qui embauche une apprentie pour sa femme. Donc, il est par exemple laboureur et il embauche une apprentie qui va s'occuper de faire de la dentelle ou du textile. On comprend bien que c'est pour sa femme, mais si vous ne lisez pas l'acte dans son entier, vous ne trouvez pas la chose. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que je disais il faut beaucoup de temps, ça veut dire qu'il faut tout éplucher, il faut lire très soigneusement, très précisément. Alors, il y a un autre exemple aussi, là où on voit bien les femmes, je l'ai dit, c'est quand elles deviennent veuves, les veuves ont la possibilité de reprendre les baux, et là, on les voit à la tête de l'exploitation.
Oui, c'est le seul moment d'ailleurs où, comme une évidence, vu qu'elle n'a plus de mari et plus de père, voilà. C'est là où on peut voir apparaître femme à la tête de l'exploitation.
Absolument, mais ce qu'on voit et qui est très important, c'est qu'elle dirige vraiment de main de maîtresse l'exploitation. Donc ça veut dire qu'elles n'apprennent pas au moment où elles sont veuves. Ça veut dire qu'elles l'ont fait pendant toute leur vie et que cette expérience qu'elles ont engrangée, eh bien là, on les voit simplement agir seules au moment du veuvage.
Justine Audebrand, au moment de réfléchir à la condition des femmes dans le monde paysan sur une période contemporaine, un 19e, 20e siècle, nous retrouvons malgré tout des choses de ce type-là, sachant que jusqu'à une période récente, les femmes étaient très, très, très invisibilisées, mais qu'en est-il sur un Moyen-Âge lointain? Elles apparaissent quand même en tant que, alors chef d'exploitation, le terme est évidemment anachronique, mais enfin, en tout cas, femme indépendante dans un monde paysan.
Alors oui, il peut y en avoir, et notamment, on les voit précisément dans ces polyptiques, ces grands inventaires de biens, la difficulté étant qu'il faut bien distinguer au Moyen-Âge entre des femmes libres, et des hommes libres, et des personnes qui sont asservies à un seigneur, qu'il soit laïque ou ecclésiastique. Et donc, dans ces polyptiques, on voit parfois, plutôt en marge des exploitations, un ensemble de femmes seules, soit de femmes qui sont veuves également, et donc là, on peut les voir reprendre l'activité du mari, ou alors de femmes qui viennent d'autres domaines, qui ont été mariées, qui ont parfois un parcours de vie alors qu'on ne connaît pas du tout. Mais oui, ces femmes seules existent tout à fait et elles ont également une capacité d'action, même si elles sont probablement soumises à des violences et à des contraintes beaucoup plus fortes que des femmes au sein d'une famille et d'une cellule nucléaire.
Clémence Gardin-Rotfelder, c'est encore valable au XXe siècle, des choses comme ça peut-être encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le fait que les femmes sont invisibilisées derrière leur mari, je mets jusqu'à une période très récente, ne serait-ce que pour avoir des comptes en banque, ce n'était pas possible. Donc, pour gérer une exploitation, c'était bien difficile d'être femme, si ce n'est d'être seule.
Oui, absolument. Pour la période contemporaine, moi, il y a deux exemples qui me viennent en tête de relecture des sources qui permettent justement de remettre sur le devant de la scène ces femmes des campagnes. La première, c'est les travaux des historiennes comme Françoise Thébault ou Clémentine Vidal-Naquet qui ont utilisé la correspondance des poilus Jusqu'à maintenant, cette correspondance, elle avait été utilisée pour faire l'histoire des tranchées, des combats, des hommes finalement du front. Et plus récemment, des historiennes se sont mis à utiliser cette correspondance, donc l'autre pan, on va dire, écrite par les femmes à l'arrière, pour faire justement l'histoire de l'arrière et l'histoire des campagnes. Ça montre justement cette totale capacité des femmes à diriger une exploitation, à être chef. Elles deviennent chefs d'exploitation. On a un tiers des exploitations agricoles pendant la Première Guerre mondiale qui sont dirigées par des femmes. C'est gigantesque. Et le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est la contribution d'Anaïs Albert dans l'ouvrage qu'on a co-dirigé avec Anthony Hamon, qui montre que les livres de comptes des exploitations, qui sont des sources qui sont extrêmement précieuses car très rares, elles ont une visée exhaustive, mais en réalité, le travail des femmes, parce que c'est plutôt un travail destiné à l'autoconsommation, au troc, à l'échange non marchand en réalité, ce travail-là, il est complètement invisibilisé dans le livre de comptes de l'exploitation. Et du coup, il faut vraiment fournir un effort d'autant plus important quand on est historien et historienne, pour trouver ce travail féminin, parce que bien sûr, il a absolument existé.
Oui, il est très présent, hein, Scarlett Beauvallet.
Moi, je voudrais rebondir sur justement les femmes et la Première Guerre mondiale. On a un exemple à l'époque moderne avec les femmes de marins qui ont été très bien étudiées par Emmanuel Charpentier. Quand les campagnes en mer, c'est 1, 2, 3, voire plusieurs années, qui tient l'exploitation ? C'est l'épouse ? Donc, on les voit pas, voilà, directement, mais quand on regarde un petit peu au fond les choses, on comprend bien qu'elles tiennent les rênes de l'exploitation.
Oui, parce qu'il faut savoir ruser toujours pour essayer de saisir où se trouvent les femmes dans cette histoire-là. Et nous disons bien, hein, les sources sont difficiles, mais il faut ruser. Et historienne, historien des femmes dans le monde paysan, on a besoin de faire preuve de beaucoup de ruse, et notamment pour ce Moyen-Âge où il faut aller lire dans les Vides-Saints.
L'apercevant de loin, Géraud la fit amener. Il lui demanda pourquoi une femme avait la présomption d'accomplir un travail d'homme. Son mari, répondit-elle, était malade depuis très longtemps. Le temps des semailles s'écoulait, elle était seule et n'avait personne pour lui venir en aide. Compatissant à son malheur, Géraud lui fit remettre autant de pièces qu'il semblait devoir rester de jour pour semer, afin que chaque jour, elle loue les services d'un ouvrier agricole et qu'elle-même cesse ce travail d'homme. La nature, comme dit Ambroise, refuse tout ce qui est falsifié. Et Dieu, son auteur, a en horreur ce qui y est contraire.
La vie de Géraud d'Aurillac. C'est par Odon de Cluny, Une vie de saint, lue par Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire. Géraud d'Aurillac, c'est fondateur de l'abbaye de Cluny ou un des
non,
plus
pas
proches
de, non, pas de l'abbaye de Cluny, de l'abbaye d'Aurillac, comme son nom
indique. Mais dans le cadre des abbayes clunisiennes.
Non, pas encore, puisqu'en fait...
J'ai tout faux,
moi. Non, c'est pas grave, puisque Aurillac est fondé en fait avant Cluny. D'accord. Mais c'est Odon donc, de Cluny qui écrit par la suite la vie de Géraud d'Aurillac au début du Xe siècle.
Quelle place pour les femmes dans cette histoire-là, vous, historienne, au moment de rechercher des indications sur le statut des femmes dans ce monde paysan?
Alors, cet extrait qu'on vient d'entendre est assez intéressant, puisqu'on voit Géraud d'Aurillac, donc à la fois seigneur, mais seigneur respectant les prescriptions de l'Église, arpenter son domaine et voir une femme au champ. Et il est en quelque sorte choqué de voir cette femme travailler en lui disant que ce n'est pas un travail de femme. Et Odon de Cluny, l'auteur, ensuite s'appuie sur une citation du père de l'Église, Ambroise, pour dire « il y a des travaux d'hommes et des travaux de femmes ». Donc c'est une vision extrêmement moralisatrice de l'Église qui, en réalité, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voit dans les campagnes, puisque, comme on le disait à l'instant, quand le mari n'est pas disponible, qu'il soit malade ou qu'il soit absent, évidemment que ce sont les femmes qui travaillent et qui mènent l'exploitation. Et là, on voit bien donc toute cette difficulté des sources avec ce prisme déformant de l'Église qui veut moraliser, qui veut réglementer les comportements masculins et féminins, mais aussi des comportements des paysans vis-à-vis des aristocrates, et ce qui ne correspond pas parfois à la réalité du terrain et à la réalité de la vie de ces femmes dans les campagnes.
Elle est difficile à saisir la réalité de la vie de ces femmes dans les campagnes. Travaux domestiques, bien sûr, mais au moment d'évoquer les femmes dans les campagnes, il faut juste montrer la diversité de ce monde rural aussi. Nous n'avons pas un monde fait uniquement de paysannes. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons particulièrement aux paysannes. Mais il y a d'autres femmes. Il peut y avoir un monastère avec des nonnes, il peut y avoir la femme du Seigneur. Scarlett Beauvallet, saisir ici le monde rural demande de la complexité. La place des femmes dans le monde rural demande aussi de la complexité.
De la complexité et beaucoup de variété aussi en fonction des régions. Parce que on parlait des tâches et il est évident que on va pas faire les mêmes tâches. Les femmes ne vont pas faire les mêmes tâches en fonction d'abord du type d'exploitation et puis du type de région. Tout à l'heure, j'évoquais les littoraux. Par exemple, les femmes qui travaillent dans les littoraux, elles s'occupent de cueillir le goémon pour la fumure, elles s'occupent de ramasser les coquillages, elles participent à la pêche côtière, embarquées sur les bateaux. Alors, elles ne font pas de la pêche en haute mer, mais par contre, quand les sardiniers reviennent, c'est elles qui trient les poissons. Quand on est dans un pays d'ostréiculture, elles s'occupent aussi de trier les huîtres. Donc ça, c'est un type de travail. Quand on va avoir une exploitation de vignobles, elles vont faire des tâches différentes qui sont liées à la vigne. Et en fait, elles ne font pas des tâches tellement différentes de celles des hommes. Elles accompagnent, elles ne font pas les gros travaux, d'accord, mais elles sont là présentes. Alors, peut-être tout à l'heure, on va y revenir avec... les images de ces femmes, mais quand on a des images de femmes, on les voit par exemple à la moisson, en train de lier les gerbes, en train de sarcler, en train d'enlever... enfin, elles ont véritablement un travail, je dirais, elles participent à tout. Et souvent, justement, ça a été le problème de ces premières grandes thèses, où on avait l'impression qu'elles étaient cantonnées à la maison, maison et basse-cour. Bon, bah, c'est bien plus que maison et basse-cour.
Oui, c'est vrai que c'est le schéma que nous avons, oui. Les femmes à la maison avec les enfants qui préparent la cuisine en attendant que le mari revienne des champs et puis qui s'occupe de la basse-cour et des cochons. Dans ces images associées aux femmes, Clémence Gatten-Ransfelder, il y a vraiment de cela en étudiant malgré tout le 19e siècle et le 20e siècle. On assiste à une mutation des mondes ruraux, bien sûr, on le voit bien avec l'industrialisation. Est-ce qu'on note des évolutions majeures ici?
Moi, je suis totalement d'accord avec Scarlett quand elle dit que il y a cette représentation qu'il y a des travaux qui sont uniquement féminins et des travaux qui sont plus l'apanage des hommes. Mais ça, c'est vraiment dans les je pense que c'est dans une sorte d'imaginaire collectif, parce qu'en réalité, dans les représentations qu'on a, les tableaux du 19e, de tous ces peintres qui veulent fuir cette révolution industrielle, qui fuient les villes, où se déploie toute cette modernité complètement honnie, vont dans les campagnes, du coup, avec cette sorte d'espoir de retrouver une nature qui serait donc représentée par ces paysans et ces paysannes qui sont représentées dans les tableaux... en plein labeur, etc. On voit que les femmes, et je pense que c'est pas qu'une projection, c'est une représentation de ce qu'ils sont sous les yeux. Les femmes travaillent dans tous les tableaux, dans tous les tableaux qu'on peut remarquer à cette époque-là. Hein. Bon, les glaneuses de Millet, c'est vraiment le tableau qu'on cite le plus souvent, mais les foies de Bastien Lepage, la moisson de Léon Lhermitte, la fin de journée de travail de Jules Breton, la récolte des foins de Julien Depré. Bref, on a tous ces tableaux qui représentent le travail des femmes et on voit à quel point il n'y a aucun travail qui est spécifiquement masculin. Les femmes sont absolument partout, au 19e et au 20e siècle, absolument partout.
Avec ces artistes, effectivement, qui vont représenter ce monde paysan en train de disparaître, ou en tout cas le fantasme qu'il disparaisse très vite, tandis que dans le monde paysan, il y a aussi l'envie de quitter la ferme pour aller vivre ce qui se passe à la ville.
Combien d'hectares avez-vous, Madame Boulevert ?
9 hectares.
Et sur ces 9 hectares, combien sont cultivables ?
4.
Qu'est-ce que vous faites là-dessus ? Des légumes ?
Oui.
Quoi, par exemple ?
Des choux, pommes de terre.
Pensez-vous que votre fille devrait prendre votre suite, devrait exploiter cette ferme ?
Oh non.
Pourquoi ?
C'est trop petit.
Trop petit ? Ça tombe bien d'ailleurs, je crois.
Oui, oui.
Vous
ne
voulez pas rester
oui.
À la campagne ?
Non, non, non.
Vous ne voulez plus vivre à la campagne ?
Non.
Et si vous épousiez un cultivateur ?
Non, non, je ne veux pas.
Non ?
De toute façon, gros millionnaire quand même.
Bon, tant pis. Ils sont millions.
Même s'il avait 50 hectares ?
Tant pis, ce serait pareil.
Pourquoi ?
Mais tu ferais la dame ?
Oh, bah tant pis, non.
Et pourquoi ne voulez-vous plus vivre à la campagne ? Expliquez-moi. Pourquoi voulez-vous quitter la terre ?
Ça m'intéresse pas.
Qu'est-ce qui vous intéresse ?
C'est toujours ça, je sais pas.
Danser, je crois.
Ah, danser, oui.
Vous avez l'impression qu'on danse plus souvent en ville qu'à la campagne?
Oui.
Vous danserez beaucoup quand vous serez en ville?
Il y a un peu de stéréotype de genre dans cette archive des 1960 avec la fille de Madame Boulevet. Nous étions à Plumelec, ça se trouve dans le Morbihan. L'idée de figer ce monde paysan tel que vous l'avez évoqué avec énormément de stéréotypes. Nous y associons, Scarlett Beauvallet, tous les stéréotypes de genre. Ce qui nous donne ici, nous savons, tant de domination pour les femmes et tant de domination par les stéréotypes aussi. C'est difficile de creuser tout cela. Est-ce que les études que vous faites, vous, sur les temps modernes, 17e, 18e siècle, valent pour l'ensemble? C'est-à-dire qu'il y a quand même une démarche à suivre de l'historienne où il faut réussir à démonter les clichés les uns après les autres.
Alors, il faut démonter les clichés les uns après les autres, mais c'est pas tant, je pense, c'est surtout les clichés que nous ont donné les sources. D'abord, les sources de l'époque, je pense à La Maison Rustique, par exemple, qui est un texte qu'on utilise beaucoup, du 16e, où on voit effectivement, c'est extrêmement genré, la femme à la maison. Il y a aussi les travaux des historiens, de nos prédécesseurs, qui ne se sont pas intéressés aux femmes, il faut le dire, Je suis désolée, c'est peut-être un peu dur ce que je suis en train de dire, mais qui ne se sont pas intéressés aux femmes. Et quand on regarde les choses, on s'aperçoit, avec notamment les notaires, les procurations, ça c'est un document qu'on n'a pas beaucoup, sur lequel on est en train de travailler actuellement, quand le mari est absent, qu'est-ce qu'il fait ? Sa femme n'a aucune capacité juridique. Eh bien, par procuration, il lui donne le droit de faire tous les actes de la vie juridique. Donc, les procurations, c'est une source énorme, considérable qu'on trouve dans les archives et qui montre bien que le couple s'organise parce que le mari sait bien, il faut bien faire vivre l'exploitation. Donc ça, je pense que quand on regarde encore une fois les choses, on voit que les femmes sont partout et qu'elles ont un véritable rôle. Et en plus, souvent, on les voit pas dans l'économie. Mais avec le système qu'on appelle maintenant, on l'a appelé longtemps la proto-industrie, c'est-à-dire le travail à la campagne. Maintenant, on l'appelle plutôt l'industrie au champ. Les femmes ont un travail réellement salarié et elles participent à l'économie monétaire, les paysannes, voilà, qu'on voyait pas du tout avec de l'argent. Donc qui va vendre les produits, puisque tout à l'heure j'évoquais la basse-cour, qui va vendre les produits de la basse-cour au marché, c'est la femme, et c'est bien elle qui récupère de l'argent. Qui fait du travail de l'industrie au champ, ce sont elles, et elles peuvent faire des ouvrages de très grande qualité, comme de la dentelle.
Oui, ça, c'est vrai que cette proto-industrie à l'intérieur de la ferme, parce que l'hiver, notamment, faut bien s'occuper et puis il faut quand même faire vivre le foyer, fait que nous avons une contextualisation ici régionale. On sait bien que ce n'est pas la même proto-industrie partout. Puis la contextualisation est bien sûr temporelle. Dites-nous, Justine Audebrand, dans le cas du Moyen-Âge que vous étudiez, ce lointain Moyen-Âge, il y a des règles sociales qui font que toutes les femmes paysannes n'ont pas le même statut. Et là, nous avons aussi une pertinence d'un regard historique qui nous montre que ces mondes ruraux ne sont pas des mondes figés.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je travaille plutôt sur la première moitié du Moyen-Âge, qui est bien différente de la seconde moitié, et même au sein de cette période, c'est sur plusieurs siècles, donc il y a évidemment un ensemble d'évolutions, mais c'est vrai que la principale différence, comme je le disais tout à l'heure, c'est entre les femmes libres et les femmes asservies, qui montrent bien aussi une différence de conditions. Au-delà de ça, bien sûr, il y a encore les moniales, la femme, comme vous le disiez, du seigneur, donc une diversité de ces statuts, et une diversité des activités qui sont liées à ces différents statuts, notamment parce qu'il semble qu'au nord de la France, au 9e siècle, les femmes non libres, les jeunes femmes non libres, aillent fréquemment, avant leur mariage, travailler au domaine du seigneur. Ce qui suppose qu'elles soient en partie coupées de leur famille, donc une rupture des liens, et on imagine, même si on ne connaît pas tout à fait les conditions de travail dans lesquelles elles travaillent, on peut s'imaginer un ensemble de violences spécifiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que peuvent avoir les paysannes libres qui ne sont pas forcément astreintes tout à fait au même service. Et donc là, on voit bien une diversité de ces conditions et une diversité de ce monde rural qui n'est pas du tout un monde figé. Et là, mon exemple, c'est la France au 9e siècle, ça serait différent un siècle avant et 300 kilomètres plus au sud.
Scarlett Beauvallet, vous disiez à l'instant, c'est vrai que pendant longtemps,
historiennes, historiennes, s'ils ne sont pas intéressés, souvent on avance des noms en disant « mais si, alors telle année, il y a eu tel ouvrage ». Mais c'est vrai, c'est pour dissimuler l'absence de toutes ces autres études, parce qu'en citer que quelques-unes, c'est bien montrer qu'elles sont spécifiques.
Oui, oui, ça a été vraiment très longtemps spécifique, mais bon, parlons maintenant un peu de l'avenir. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes historiens et historiennes qui s'attellent maintenant à nous montrer. Et d'ailleurs, on a eu une question d'agrégation il y a quelques années, une question d'agrégation sur les mondes ruraux, en histoire moderne et en histoire contemporaine, et on a eu des synthèses. Je crois d'ailleurs que peut-être on va en reparler. On a eu des synthèses et on voit que maintenant, il y a de nouvelles choses qui sortent. Hein, et on peut faire une nouvelle histoire. Hein. Il ne faut pas rester passéiste avec, on a dit maintenant, ça y est, c'était l'historiographie. Non, là maintenant, on est en train de véritablement voir que les femmes ont une place très importante, et aussi bien dans l'économie monétaire que dans l'économie domestique, hein, qui est moins à la ferme.
Et l'économie dans son ensemble, c'est ça qui est vraiment passionnant. Oui. Clémence Gaddafi-Nosfelder, c'est cela aussi, parce que Scarlett Beauvalet, vous regardez là en disant ça, on voit bien que les choses évoluent. Non, c'est vrai qu'il y a un champ disciplinaire ici assez vif, mais il croise l'ensemble des autres disciplines. C'est ça qui est passionnant, parce que je rappelle quand même que ces femmes et femmes paysannes, c'est par définition, à peu près la moitié de tous nos ancêtres. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, c'est vrai. Alors ça, pour la question de la transdisciplinarité, c'est vrai que pour la période la plus contemporaine, de pouvoir faire de l'ethnologie, de pouvoir s'appuyer, sur la période du XXe siècle, sur les travaux en sociologie, par exemple de Rosemarie Lagrave ou David Barthez, ça a été très, très précieux. Sur les travaux en anthropologie ou en ethnologie aussi, c'est vraiment très précieux. Également, et juste pour rebondir sur ce que Scarlett disait par rapport à la question de l'agrégation, la première année, donc l'année dernière, c'était hommes et animaux. Je ne sais plus exactement comment a été tourné, mais je crois que c'était hommes et animaux, mais hommes bien sûr avec un grand H. Et c'est vrai que quand on a parlé de la correction de cette question, on savait très bien que si les femmes passaient à la trappe des dissertations des étudiants et des étudiantes agrégatifs et agrégatives, il y avait quand même un large pan, puisque les femmes sont celles qui s'occupent des animaux dans les exploitations agricoles au 19e et au 20e siècle. Donc finalement, ce serait en effet passer à côté d'une très large part de l'histoire que de les exclure, ces femmes, puisque ce sont elles qui s'occupent de la traite des vaches. Et c'était dit dans un des extraits que vous avez passé au début de l'émission, le soin aux cochons. Le soin, c'est nourrir les cochons, c'est nettoyer tous les bâtiments agricoles. Il y a toute la transformation des produits animaux. Et oui, Scarlett, vous le disiez, ce sont aussi les femmes qui vont au marché vendre le miel, vendre les œufs, vendre les poulets, les porcelets, les cochons, etc. Enfin, donc oui, c'est impossible de ne pas les voir.
C'est impossible de ne pas les voir, mais il est certain que les sources ne sont pas là et les archives ne laissent pas de traces. Non, mais on le sait bien, Scarlett Beauvalet, il peut y avoir des chefs d'exploitation, des paysans complètement abrutis, et c'est la femme qui fait tout en coulisses et qui gère tout. Non, mais et ça laissera jamais de traces. Non, mais il est peut-être formidable, cet homme-là, il manie sa charrue formidablement, mais c'est elle qui lui dit ce qu'il faut faire. Mais ça laisse jamais de traces.
Non, ça laisse jamais de traces. Alors, quand on est dans les élites, dans les campagnes, parce que quand on parle des campagnes, c'est très vaste. Hein, vous avez des manouvriers et puis vous avez toute la gamme. Quand on est dans les chefs d'exploitation, les fermiers, les gros fermiers laboureurs, on peut avoir des traces écrites. On peut avoir des traces écrites, notamment des correspondances, des livres de raison. Et il y a des écrits féminins. Peu. Plus on avance dans les siècles, plus il y en a, mais on en a. Et moi, ce qui m'a frappée, j'ai travaillé sur une correspondance d'une femme qui appartient à la noblesse et qui gère son exploitation. Elle est veuve. Et c'est intéressant parce que c'est une exploitation en Champagne, qui n'est pas une très grosse exploitation, mais il se trouve qu'elle a toujours été gérée par des femmes, parce qu'elles ont été veuves tôt, et que de mère en fille, elles se sont passées la main. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elles font les comptes. Elles ont des intendants, bien sûr, mais ce sont elles qui tiennent les comptes. Les comptes sont écrits de leurs mains, et non seulement ils sont écrits de leurs mains, mais elles maîtrisent ces comptes. Et ça, je crois que là, on a un domaine très important où, véritablement, on va pouvoir continuer à travailler.
Oui, parce que là, ce sont les sources dont vous disposez en masse, Clémence Gardner-Rossfelder, au moment de réfléchir au 19e et au 20e siècle. Parce qu'il y a beaucoup de sources, ça produit énormément de textes, d'écrits, mais les textes qui nous montrent le statut des femmes, eux, sont pas si faciles à trouver. C'est ça qui est paradoxal sur la période que vous étudiez.
Moi, pour le coup, dans le cadre de mes propres travaux qui porte sur l'après Seconde Guerre mondiale, j'ai la chance de pouvoir aller faire des entretiens avec les femmes qu'on a d'ailleurs beaucoup poussé à reprendre la comptabilité gestion, à faire des formations, etc. Dans le cadre des exploitations agricoles modernes et modernistes, on va dire de l'après Seconde Guerre mondiale. Mais je reviens sur cette question que je trouve moi particulièrement intéressante, qui et une des questions un peu principales qui agite la recherche sur la période contemporaine et peut-être sur les autres périodes, hein, c'est vraiment de savoir à quel point les femmes participent aux décisions qui concernent l'exploitation agricole. Les lettres des poilus qui sont envoyées à l'arrière montrent la volonté hein, de ces poilus de conserver la main sur les décisions importantes, les dates d'ensemencement, l'embauche de main-d'œuvre, etc. Et peuvent du coup laisser supposer que ces décisions, en fait, c'était probablement les hommes qui les prenaient avant la Grande Guerre. Mais comment savoir finalement ce qui se passait dans l'intimité des foyers? Qui peut savoir hein, si les décisions, c'était pas le fruit de conversations entre l'homme et la femme? Conversations dans laquelle la parole de la femme aurait été respectée et écoutée. Comment savoir donc si la décision de la femme n'aurait pas eu une part un peu égale, même si, en fait, de manière ostentatoire, c'est l'homme qui montrait que c'était lui qui prenait la décision, mais peut-être que c'était... Mais comment obtenir les sources de ces conversations? Ces conversations-là, elles ne sont pas consignées dans les livres de raison, dans les livres d'exploitation, alors même que potentiellement, c'était... Et en plus, vous demandez maintenant aux anciens, les gens qui ont 80, 90 ans, de parler de leurs propres grands-parents, il y en a qui vont vous dire « Ah bah, c'était le grand-père qui menait tout au doigt et à l'œil », et d'autres qui disaient « Bah, c'est grâce à la grand-mère que tout tournait rond ». Donc, de fait, cette pluralité aussi d'expériences et de trajectoires de vie, nous, ces sources-là, on n'a pas ce qu'il faut, quoi.
Il me semble que on peut imaginer aussi des couples très différents, hein, comme actuellement. Voilà, pourquoi est-ce que ce serait différent avant ? Donc certains où il y avait des discussions, d'autres où il y en avait moins, et d'autres où la femme qui était plus intéressée, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Xavier, plus intéressée par l'agriculture ou meilleure, et où finalement le mari se disait ah bah oui, je vais peut-être chasser et la laisser tenir les rênes.
Et c'est probablement tout à fait la même chose au Moyen-Âge, puisqu'on est dans un monde évidemment patriarcal, où c'est l'homme qui est mis en avant, mais on a aussi des situations où on a par exemple un homme asservi, un homme serf, qui épouse une paysanne libre dans une logique, alors d'ascension sociale c'est un peu anachronique, mais dans une logique en tout cas de, oui, presque d'ascension sociale. Et là, on peut bien imaginer que le statut respectif des individus joue au sein du couple entre une femme qui, certes, est dominée du point de vue du genre, mais qui est plutôt dominante du point de vue de la condition sociale. Donc tout ça, évidemment, joue dans les rapports individuels de la gestion des communautés.
Mais c'est vrai qu'il y a ce biais de source hein, de la conversation. Là où il y a le plus de décisions, c'est à l'intérieur du foyer, ce qui, par définition, ne laisse aucune trace, aucun écrit. Après, faut aller les rechercher. Et parfois, bien sûr, ben on l'a dit, hein, les textes juridiques, pourquoi pas, notariaux, etc., peuvent apporter des informations. Parfois, c'est dans la littérature aussi, au moment de faire les comptes, Perrette est très forte.
La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. » Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau ? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe.
Adieu, veau.
Adieu, veau.
Vache.
Cochon. Couvée. La dame de ses biens. Quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue.
La dame de ses biens, quittant d'un œil mari.
fortune ainsi répandue va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu.
Le récit en farce en fut fait. On l'appela
La laitière et le pot au lait, mais Jean de La Fontaine, alors ici avec Robert Hirsch et les frères Jacques, avec cette rencontre organisée par Thomas Beau qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture à la technique Guirec Cordin. Et aujourd'hui dans Le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ces femmes en sabots, les oubliées de l'histoire. Scarlett Beauvalet, cette fable de Jean de La Fontaine, nous sommes au XVIIe siècle. C'est un bel exemple hein, parce que c'est bien elle qui va vendre le lait, c'est bien elle qui sans doute a tiré le lait, c'est elle qui fait les comptes, qui imagine plein de choses. Bon après c'est... ça pose un regard masculin qui fait qu'elle n'est pas constante. Et ça, c'est le regard de Jean de La Fontaine.
Alors, c'est le regard de Jean de La Fontaine, mais c'est sûrement un regard qui est finalement assez réaliste. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de tâches. C'était intéressant d'ailleurs dans l'archive qu'on a eue au tout début avec l'interview. Et où on se disait, que faites-vous ? Toutes les heures, pratiquement, il y a un emploi du temps qui est extrêmement lourd, extrêmement dense. Et je pense que c'est là qu'on peut le voir. Effectivement, les femmes sont occupées du matin au soir. Si vous rajoutez les tâches ménagères, la préparation des repas et les enfants, voilà, c'est des journées qui durent longtemps. Et effectivement, elles font un peu de tout. Et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée aussi. Souvent, elles sont nourrices. Parce que il faut bien compléter les revenus du ménage et avoir un enfant qu'on allaite en plus du sien, ça permet aussi d'ajouter de l'argent. Donc je crois que c'est véritablement des journées très très complètes, très riches, très diverses, très très lourdes, qui expliquent sans doute que cette dame au début disait qu'elle souhaitait pas que sa fille le fasse.
Ouais, parce que c'est vrai que ce sont des journées difficile hein, dans le monde paysan, mais là aussi, Justine Audebrand, pour ce Moyen-Âge que vous étudiez, ce Moyen-Âge lointain, donc on est au 6e, au 11e siècle, est-ce qu'il est possible de construire un emploi du temps d'une paysanne, mais même d'un paysan? Comment on peut imaginer les choses? C'est à travers des déductions, on évoquait tout à l'heure les représentations, les images, quelques enluminures, mais souvent tardives hein.
Alors là aussi, toute la difficulté est de trouver les sources, mais la solution, enfin une des solutions, c'est de croiser les sources, en fait, de montrer en regard. On peut avoir, par exemple, des calendriers qui nous permettent de voir le rythme des saisons, puisque on ne peut pas vraiment avoir une journée type, puisque la journée type de l'hiver n'est évidemment pas tout à fait la même que la journée type de l'été quand il y a les moissons. Ce qu'on peut imaginer, c'est, alors le terme est aussi anachronique, mais une espèce de double journée, puisque comme on le disait à l'instant, les femmes sont aussi en charge, en plus de tout un ensemble de travaux des champs. L'été, il n'y a pas de raison de penser qu'elles ne vont pas faire des foins avec leur mari, puisqu'il faut tous les bras possibles. Elles sont aussi en charge de tout ce qui relève de la cuisine ou du jardin. Et ça, par exemple, on le voit dans des textes normatifs, des textes répressifs en réalité. Je pense notamment à un texte assez célèbre du 11e siècle qui est le pénitentiel de Burchard de Worms. Alors Burchard est évêque de Worms et il donne une liste de pénitences pour les prêtres de son diocèse qui vont faire la confession. Et il condamne en particulier certaines pratiques magiques, païennes, peu importe, des femmes qu'il voit dans la campagne. Et ces magies touchent toujours à l'univers domestique. Par exemple, à la cuisine, au jardin, au tissage, dont je pense qu'on aura l'occasion de reparler, à la guérison et à l'avortement. Donc on voit bien, dans la spécificité de la cuisine et du jardin, que les femmes sont aussi en charge, en plus d'un ensemble de travaux collectifs au sein de l'exploitation, de choses comme je pense à d'autres périodes, autour de la cuisine et de l'exploitation des jardins et de la basse-cour aussi en partie. Oui, finalement, c'est une journée beaucoup plus chargée peut-être que celle des hommes.
Mais on le sait bien et c'est vrai que là, ça s'applique à d'autres périodes et pour des périodes beaucoup plus proches de nous, c'est la même chose. Sachant que dans l'évolution récente de ces mondes paysans, je crois qu'on imagine aujourd'hui très facilement un couple d'agriculteurs et parfois même lui est seul, elle travaille et rarement l'inverse, mais ça arrive aussi. Dans les fermes du passé, il y avait beaucoup de monde. Au 19e siècle encore, au 20e siècle encore, il y avait beaucoup de monde dans une ferme. Il y a le mari, la femme, les enfants, et puis il y a des ouvriers agricoles, et il y a des servantes. Ce sont vraiment, et toujours dans la variété des cas et des fermes, parce que c'est très différent, mais il peut y avoir beaucoup de monde dans une ferme.
Oui, et il peut y avoir beaucoup de monde, mais ce que disait Scarlett tout à l'heure par rapport aux différences régionales, notamment, on ne va pas avoir les mêmes types d'exploitation dans l'ouest armoricain que dans le bassin parisien, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que la taille des exploitations et les principales cultures, on va dire, que ce soit la vigne ou les céréales ou les animaux, etc., font que il y a une diversité de réalités sociales et de vie quotidienne, en fait, pour paysans et pour les paysannes, selon que l'on soit à la tête d'une petite ferme en polyculture élevage dans l'Ouest, ou selon que l'on soit marié au gros fermier de la Beauce. Voilà, où là, pour le coup, vu que les exploitations sont plus grandes dans ces endroits-là, on va avoir un panel, comme vous disiez, de domestiques, les manouvriers, les journaliers et les journalières, les ouvriers et les ouvrières agricoles, également tout ce qui est bonne, servante domestique, etc., dont Sylvie April peut-être vous parlera de ce qui concerne les travailleuses polonaises qui venaient travailler en France dans les années 30. Enfin voilà, donc c'est vrai que ce terme même de paysanne ou de femme rurale, ce terme même là, il est hyper englobant et à chaque période, il a sa propre déclinaison de toutes ces réalités. La vie des femmes quand on est fille d'un couple à la tête d'une exploitation en polyculture élevage ou d'une grosse exploitation, c'est pas du tout la même chose. La sociabilité, c'est pas la même chose. La liberté d'action n'est pas du tout la même chose. Les perspectives d'avenir sont pas du tout les mêmes. Même les perspectives d'instruction sont pas du tout les mêmes.
Oui, l'alphabétisation, bien sûr.
C'est vraiment très, très... Oui, c'est des trajectoires qui sont très différentes.
Qu'en est-il de l'instruction, d'ailleurs ?
C'est-à-dire que là, on était... si je reprends les filles de laboureurs, par exemple, je pense aux travaux de Morisseau sur les gros fermiers de l'Île-de-France. Les filles, elles sont levées souvent au couvent, et elles ont une instruction qui est tout à fait différente de celle de l'ouvrière ou de la journalière dont vous parliez. Donc, je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire des généralisations, et c'est bien le problème d'avoir fait les paysans, qu'il faut rayer, ou les paysannes. Non, donc là, on a des gammes très différentes. Il y a quand même un progrès évident du 16e au 18e siècle, ça c'est sûr. Mais quand on est dans les plus basses couches, je pense pas que ce soit très différent homme-femme.
C'est important de le
noter. Voilà, dans les plus basses couches, bon, ils savent écrire, signer, lire, voilà. Hein, on mesure, c'est difficile de mesurer l'alphabétisation parce que on peut être capable de signer, de dessiner sa signature et de pas lire. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on est signant ? Bon. On est un petit peu alphabétisé, voilà. Maintenant, c'est pareil, c'est lire, écrire, compter, c'est ce qu'on apprend dans les petites écoles. Donc, y a un progrès, mais on peut absolument pas comparer la fille du laboureur et la fille du manouvrier. Ça, c'est évident.
Scarlett Beauvalet, vous avez cité Jean-Marc Morisseau. On peut écouter l'émission du cours de l'histoire, Un coq dans son village, portrait d'un laboureur au grand siècle. C'est pas Jean-Marc Morisseau, le laboureur au grand siècle. C'est son ancêtre, Nicolas de la Cour. Non, mais c'est une étude magnifique de Jean-Marc Morisseau. Ici, nous avons cette grande variété de statuts qui correspond à ce qui existe dans la société en dénominateur commun, nous pourrions dire, ou en tout cas ce qui s'applique à tout le monde, c'est le statut matrimonial. Là, ça s'applique à tout le monde, c'est-à-dire que la domination masculine inscrite dans les textes, c'est quelque chose que l'on peut percevoir absolument partout si l'on est un petit couple de paysans ou bien un laboureur.
Alors, c'est vrai et c'est pas tout à fait vrai, parce que on peut être marié sous différents régimes. Il y a le régime de la communauté, il y a le régime de la séparation des biens. Quand on est marié sous le régime de la séparation des biens, la femme reste quand même maîtresse de ses propres. Donc, c'est pas tout à fait pareil que de vivre en communauté. Donc, là encore, il y a des différences. Et alors, ça, on le sait très bien, pour notre période, les différences régionales sont extrêmement importantes. Parce que maintenant, on a un droit unifié. Mais on n'a pas un droit unifié. Il y a les pays de droit écrit, il y a les pays de coutume. Dans les pays de coutume, il y a des coutumes différentes. Vous avez des petites régions où il y a des coutumes particulières, où il y a le droit d'aînesse, où les garçons sont avantagés. D'autres, ou au contraire, la fille peut hériter. Donc, je crois que quand on étudie ces mondes-là, il faut surtout être très prudent. Pas généraliser, prendre plutôt des exemples, hein, et voir que, en fonction déjà des caractères, pour tout à l'heure on disait mari-femme, en fonction du type d'exploitation, de la taille de l'exploitation, de ce qu'on produit, voilà. Et donc je crois qu'il faut être très, très modeste et très prudent dans nos conclusions. C'est pour ça que c'est difficile de faire une synthèse. Il faut plutôt présenter des exemples de ce qui est possible.
Voilà, donc ne pas généraliser. Non. Mais je tente le coup quand même. Les métiers du textile, ça c'est plutôt féminin.
Tante Marie est tisserande depuis 40 ans.
Et cette laine, vous l'avez vous-même préparée ?
Cette laine, oui, je l'ai moi-même préparée. C'est-à-dire qu'elle a été tendue donc sur le mouton, ensuite lavée, et ensuite filée. Et maintenant, elle est dévidée. C'est la laine qui sert au tissage du métier que vous voyez.
Vous vous rappelez la première fois ?
Je pense que c'était du lin que j'avais filé moi-même, que j'avais monté sur le métier et que j'avais tissé. Et j'avais 17 ans à ce moment-là, je me souviens très bien de ça. J'avais pas mal de peine au commencement, mes fils collaient, je n'arrivais pas à travailler. Puis peu à peu, le métier est entré, comme on dit, à force de peine.
Voilà, nous étions en 1970 avec Tante Marie au Mont-Velay. Donc, dire que les métiers liés au textile, au tissu, sont attribués aux femmes dans le foyer, toujours hein, dans cette volonté de saisir le statut des femmes à la campagne. Justine Audebrand, est-ce que c'est le cas pour le Moyen-Âge ?
Alors là, oui, c'est assez clair. Dans les sources écrites, les travaux textiles sont souvent qualifiés d'opéra muliebria en latin, c'est-à-dire des travaux des femmes. C'est vraiment quelque chose qui est associé très spécifiquement au féminin, et des très rares fois où on voit des hommes pratiquer des travaux textiles, c'est présenté comme une anomalie. Donc là, bon, encore une fois, c'est texte écrit par l'Église, etc. Mais il semble que ce soit relativement attesté, en tout cas pour le Moyen-Âge, et pas uniquement dans les campagnes, et pas uniquement pour les femmes paysannes, pour les femmes de toutes conditions sociales, le travail du textile est présenté comme un idéal. Alors évidemment, ce n'est pas le même travail textile. L'aristocrate brode des belles choses au fil d'or. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de tisser ou de filer la laine, évidemment. Et on peut aussi corroborer tout ça avec l'archéologie, puisque on a trouvé dans les villages du Moyen-Âge, ou dans du moins les groupements d'habitations du Moyen-Âge, des cabanes avec des métiers à tisser qui sont plutôt verticaux dans la première moitié du Moyen-Âge et qui sont parfois horizontaux. Et lorsqu'ils sont horizontaux, ils sont maniés probablement par deux personnes, ce qui suppose ici peut-être une production d'un couple destiné soit au marché, soit à payer un ensemble de rentes locales. Donc là aussi, évidemment, on voit ce que disent les sources, on voit l'idéal qui est projeté sur les femmes qui doivent faire le travail textile, et puis peut-être que parfois, dans la pratique, il y a quelques hommes qui sont en charge de cela, mais c'est quand même majoritairement, visiblement, un travail féminin.
Est-ce qu'il y en a d'autres que vous arrivez à identifier ? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que ce travail textile très féminin, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, mais c'est lié aussi à des stéréotypes après, hein ? C'est que les femmes doivent coudre et les maris vont bricoler. Ça, c'est le stéréotype, mais en tout cas pour le travail. Donc, ça, c'est très féminin. Est-ce qu'il y a des tâches à la ferme qui sont plutôt féminines ? Le poulailler, on l'a dit, hein, la petite basse-cour, les cochons, traire les vaches aussi ?
Traire les vaches, oui. Tout ce qui est lié aux animaux, hein, s'occuper des animaux, hein, ça je pense que là on peut le mettre également. Il ne faut pas oublier le jardin, toute la culture des fruits, des légumes. Ça c'est important, le potager, hein, ça c'est très féminin. Alors on l'a dit aussi, quand c'est le moment de la moisson, bon bah voilà, elle participe, on a besoin de bras et tout le monde y va. Dans les régions littorales, la pêche, et il faut pas imaginer que les femmes ne font que la pêche aux coquillages, elles participent aussi, elles sont sur les bateaux. Côtier, hein, bien sûr. Donc, les nourrices, je l'ai évoqué, c'est quelque chose. On a parlé de l'industrie nourricière hein, quand on s'intéresse à notre époque. Et ça, je sais que vous en parlerez aussi hein, pour le 19e. C'est quand même très, très varié. Hein, la vigne, on l'a dit. Et le textile, oui. Et pour le textile, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'on a dit. Il y a effectivement ce discours de l'Église. Une femme doit avoir les mains occupées, hein, avoir les mains toujours en ouvrage. On parlait des représentations. Alors là, les représentations, il est exceptionnel qu'on voit une femme qui n'ait pas un ouvrage. Peut-être un livre hein, pour les élites, mais en tout cas un ouvrage.
Clémence Gaben, Rosfelder.
Non, ça me fait penser à une scène dans La vie est en le fleuve tranquille où, où Madame Duquesnoy dit à sa fille, on a toujours un petit quelque chose à faire. Et en fait, bon, c'est vraiment représentatif du fait qu'en effet, les femmes sont toujours absolument occupées. On a parlé du potager, on a parlé de la basse-cour, on a parlé des animaux, on a parlé de tout ce qui est travail domestique et reproductif, le soin aux anciens, le soin aux enfants. Oui, absolument, tout ça, c'est... Mais sur la question du textile, moi, ça m'amène à la question aussi des lieux de sociabilité féminine. Parce que le textile enfin, amène aussi à la question du lavoir, où forcément on se rend au lavoir, et c'est un moment où il n'y a que des femmes, normalement, qui se rejoignent, et c'est les moments de conversation, de discussion, d'échange, où on fait la lessive pour l'intégralité de la famille. Voilà, et puis cette question des vêtements, les poilus qui devaient envoyer leurs vêtements à l'arrière pour qu'ils soient raccommodés et lavés, et c'était les femmes du coup qui devaient se charger de ce travail de lavandière en fait, pour renvoyer tous les vêtements raccommodés et propres aux hommes au front. Ça aussi, c'est ce travail textile, c'est les femmes à l'arrière qui le faisaient, quoi.
Oui, il y a toutes les tâches qui repose sur les épaules des femmes, et puis toutes ces tâches liées à cette profession, ces doubles journées. Mais je crois que je ne surprendrai aucune auditrice, et sans doute aucun auditeur d'ailleurs qui nous écoute, avec la place aussi des enfants, de la maisonnée même, parce que quand il y a des domestiques, il faut s'occuper d'eux. Je vous propose un son, alors accrochez-vous, hein, parce que on ne sait pas trop si ça parle d'un Moyen-Âge lointain, du début du 19e siècle. Écoutez voir, pourquoi pas d'aujourd'hui.
Le feu s'est éteint. C'est mauvais signe. Il va sûrement nous arriver quelque malheur.
Maman, j'ai faim.
Mon pauvre petit. Il n'y a pas grand-chose de bon ici. Tiens, mange un peu de mic. Il fait bien froid cette nuit.
Et toi, maman, tu ne manges pas?
J'ai pas faim.
Dis, maman, il y avait de beaux poulets au château.
Oui, mon fils. Et des dindes et des truffes, plus qu'ils n'en pourront manger.
Pourquoi ils ont tant de choses?
Parce qu'ils sont riches.
Et pourquoi ils sont riches?
Parce que c'est comme ça.
Tu sais, maman, je crois que dans tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas bien arrangé.
Tu comprendras plus tard.
Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours connu les miens malheureux. Nous étions alors métayers du comte de Nansac, le plus riche seigneur dans le Haut-Périgord.
Je crois que dans tout ça, il y a quelque chose de pas bien arrangé avec ces écarts de richesse. Scarlett Beauvallet, ça pourrait être au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle.
Hein, oui, d'autant que pendant toute la période, on a des crises de subsistance. Hein, on a, alors maintenant, on voit ça aussi, mais il y a vraiment des aléas climatiques. Hein, il y a le grand hiver, par exemple, au tout début du XVIIe siècle. On dit que le vin a gelé sur la table du roi, donc on imagine bien ce que ça a dû être dans les chaumières. On a des printemps pourri, où on peut pas... ce qui est difficile dans les campagnes, c'est de garder... on n'a pas de stock, on n'a pas de silo. Hein, en général, on garde l'année précédente ce qu'on va replanter. Donc, il y a des fois, on n'a plus rien à planter. Ou alors, on a des printemps, comme je l'ai dit, des printemps pourris. Et on a donc ces crises de subsistance. Donc, quand il y a des dérèglements climatiques, il y a la disette, puis la famine, et il y a énormément d'épisodes pendant cette période. Donc, évidemment, là, c'est peut-être un peu... Mais quand même, je pense qu'il y a eu des périodes très, très dures, hein, des périodes de forte mortalité, vraiment des périodes de famine.
Justine Audebrand, c'est vrai que ces inégalités de richesse, la difficulté ici de nourrir ses enfants et le rôle des femmes, ça pourrait être au 6e, 11e siècle.
Oui, bien sûr, et d'autant que, comme l'a montré Jean-Pierre Devroy pour cette période, on n'a pas beaucoup de circulation des biens céréaliers, par exemple, entre les régions, ce qui fait que si on a une région affectée par la famine, même s'il y a à manger dans celle d'à côté, on n'a pas forcément la circulation des biens et des céréales qui vont permettre de nourrir toute la population. Donc oui, même si la vision là est évidemment un petit peu misérabiliste, il y a, comme à l'époque moderne, sans doute des moments extrêmement durs comme ça, où peut-être les femmes sont moins alimentées encore que les hommes, et en particulier les femmes, les très jeunes filles en fait.
Voilà, alors que dans le château, il y a des beaux poulets, ça, tout le monde l'a constaté. Ben non, Scarlett Beauvallès n'est pas au temps moderne. Non, Justine Audebrand, ce n'est pas au Moyen-Âge. Ce sont là, c'est vous qui gagnez, Clémence Garden-Rosfelder. C'est au 19e siècle. C'est Jacques le Croquant, hein, Jacques le Croquant, le film qui, et le roman, bien sûr, mais qui se déroule dans les années 1820. Mais ce rôle des femmes dans le monde rural, c'est aussi la place des femmes au foyer, c'est cette survie du quotidien, ce souci constant de pouvoir nourrir ses enfants. Et ce sont elles qui sont au bout du bout et qui doivent nourrir tout le monde à la fin.
Oui, il y a sûrement une énorme pression, en fait, au quotidien, qui est mise sur les femmes pour faire tourner la baraque, si je puis dire, pour que tout le monde, en effet, soit nourri, pour que tous les travaux soient faits. C'est pas pour rien que ce sont, dans la grande majorité des cas, les premières levées, les dernières couchées. Et c'est aussi peut-être ce qui m'amène à dire que c'est aussi pour ça qu'on a une grande émigration féminine des campagnes tout au long du 19e siècle, jusque dans l'entre-deux-guerres, où il faut faire venir des femmes d'ailleurs, tellement les femmes françaises quittent les campagnes. Il y a une véritable fuite des campagnes parce que les conditions de vie sont tellement difficiles. La Bretagne, par exemple, c'est une terre d'émigration féminine massive au 19e siècle.
Alors, des conditions de vie difficiles qui peuvent conduire aux révoltes. Parce que on voit très bien dans les campagnes qu'il y a des révoltes en général pour l'augmentation de la fiscalité. Et dans les périodes de disette, justement, par manque de pain. Et alors, c'est tout à fait vrai, il n'y a pas beaucoup de circulation d'une province à l'autre, et on s'en prend toujours aux accapareurs. Et là, je pense que véritablement, pour bien comprendre, finalement, ces femmes vont avoir, c'est difficile de dire une conscience, mais on n'en est pas loin, mais le fait de lutter pour sa survie, pour l'alimentation, a fait qu'elles se sont révoltées avec les hommes. Et ça, il ne faut pas l'oublier, avec les hommes, elles ont été très très présentes, et ça explique qu'au moment de la Révolution, finalement, on les voit aussi actives et aussi engagées dans le processus révolutionnaire. Parce que ça, elles l'ont déjà expérimenté pendant les siècles.
Merci vivement à toutes les trois, parce que quel défi de venir dans le cours de l'histoire pour parler des femmes dans les mondes ruraux sur un temps si long, et c'est un échange à travers les siècles extrêmement enrichissant. Merci vraiment vivement à vous, Scarlett Beauvallès, bien sûr, et puis Justine Audebrand, La vie des femmes au Moyen-Âge, une autre histoire des 6e, 11e siècles, c'est aux éditions Perrin, et Clémence Garden-Rosfelder avec Anthony Hamon. Vous avez écrit La vie des femmes dans les campagnes, 19e, 20e siècle, c'est aux presses universitaires de Rennes. Donc comme ça, on cumule vos ouvrages, et puis depuis La rose et le bleu avec Scarlett Beauvallès, on a quand même un bon panorama de cette histoire-là. Merci vivement à vous. Vous disiez, Scarlett Beauvallès, qu'il fallait parler des nourrices. Ça tombe bien. Prochain épisode dans le cours de l'histoire. Nourrices, quand les filles des champs veillent sur les enfants des autres.
En France, il y a deux sortes de nourrices. Les nourrices sur lieu et les nourrices à emporter. Les nourrices sur lieu étaient engagées au domicile des parents bourgeois pour allaiter les nouveau-nés. Les nourrices à emporter étaient des paysannes qui prenaient en pension chez elles, à la campagne, des bébés de la ville.
Nous étions en 1978 avec cette archive dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Coppet, Luce Mourant, Sidonie Lebeau et Maïwenn Guizio. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.